Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, un nouveau rendez-vous LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient addictif. Cette semaine, osez prendre la parole. Au départ de cette série, il y a un silence, une hésitation, et peut-être l'envie de hausser le ton, parce qu'au fond, ce qu'on veut, c'est se faire entendre. Que l'on soit obligé de parler en public, que l'on cherche à se faire élire, que l'on ait été une victime ou que l'on soit en pleine réunion. Alors avocat, professeur, chef de projet, thésard, militant, bègue, bafouilleur et timide, mais aussi tous ceux qui ont la gorge nouée, la bouche cousue, qui sont lestés d'un secret trop lourd ou d'une histoire inaudible, ces émissions sont pour vous. Puisque prendre la parole, c'est aussi un peu reprendre la main. Pour commencer, les personnages. Des communicants à qui on ne la fait pas, des habitués de la tribune, des orateurs qui savent faire vibrer les foules, des élus qui coupent la parole comme personne, et des femmes politiques qui savent ruser pour se faire entendre. Ensuite, le décor. Des conseils municipaux, des salles de concert, des pupitres, le silence que demande le chef d'orchestre, des places publiques où des foules inventent une nouvelle façon de débattre, et bien sûr, des salles de réunion surchauffées et éclairées au néon. Aujourd'hui, deuxième épisode de la série, c'est un documentaire de Céline Leclerc, réalisé par Anna Schmuck. On est en France, à Paris et en province, et sur l'estrade, face à leur pupitre, les tribuns politiques s'éclaircissent la voix.
Quousque tandem abutere catilina patientia nostra. Quam diu etiam furor iste tuus nos eludet. Quem ad finem sese frenata iactabit audacia. Nil ne te nocturnum praesidium palati. Nil urbis vigiliae. Nil timor populi. Nil concursus bonorum omnium. Nil ic munitissimus abandi senatus locus. Nil horum...
Jusqu'à quand, enfin, catilina, abuseras-tu de notre patience? Combien de temps encore ta fureur esquivera-t-elle nos coups? Jusqu'où s'emportera ton audace sans frein?
Le pouvoir, c'est un pouvoir de la parole et de la conviction. Et quand vous lisez aujourd'hui les ouvrages de Cicéron sur de l'art oratoire, eh bien, vous avez strictement tout. D'ailleurs, on n'a rien inventé de nouveau et de plus aujourd'hui dans nos préparations en media training. Mais franchement, on est quand même à 99% homogène avec ce que Cicéron pouvait écrire, recommander et conseiller dans les prises de parole. Et donc, celui qui émergeait dans la Rome antique, dans la vie politique romaine, c'était celui qui avait la capacité à mieux maîtriser la parole. Bon, ben on se rend compte qu'aujourd'hui, on est quand même soumis à ces lois des reins absolues.
Mesdames, messieurs, dans quelques minutes, notre TGV desservira la gare du Mans.
Rémi Battiot, donc moi je suis vice-président Le Mans Métropole, en charge de tout ce qui est circulation, mobilité, stationnement, éclairage public et aménagement urbain.
Je suis Isabelle Sévère, je suis donc première adjointe au maire, en charge de l'enfance, de la petite enfance. Je suis donc membre du groupe écologiste, en fait, enfin, des écologistes je suis ELV en fait, et je suis donc élue, c'est mon deuxième mandat.
Hélène Debost, adjointe au maire en charge de la jeunesse et conseillère départementale de la Sarthe.
Ouais, moi j'ai un grand souvenir comme ça, j'étais en développement durable dans le premier mandat que j'avais fait. On passait un film, on avait réservé le Palais des Congrès et c'était gratuit. Et du coup, on a eu une influence, tout le monde... Et moi, je gérais l'organisation avec le service, etc. Donc j'étais un petit peu le nez dans le guidon. Et à un moment donné, on vient me chercher à l'entrée, on me dit « ça y est, maintenant la salle est pleine, faut commencer ». Donc je descends les marches, et là j'ai le souvenir, arrivé en bas, de me retourner vers la salle et de voir le Palais des Congrès qui était plein. Et je devais faire une introduction, mais à blanc comme ça. Et là, d'un seul coup, j'ai perdu mais vraiment tous mes moyens à bafouiller, à ne plus savoir comment lancer le truc. Et c'est vrai que c'était un souvenir, c'est assez prenant, quoi. Parce que vraiment, à perdre sa voix, à trembler, à perdre le fil de ses idées, et puis là, on ne sait plus comment on va s'en sortir.
Sur le premier mandat, je me rappelle en tout cas qu'il était très difficile, je trouvais, d'intervenir, surtout au début, dans des grandes assemblées plénières comme ça. On a souvent le sentiment de pas suffisamment être compétent, pas suffisamment être à la hauteur du dossier ou des choses comme ça. Et du coup, on préfère ne pas dire que de dire. Mais je dirais que c'est lié évidemment, par exemple, à la présence dans les conseils, mais c'est aussi lié dans des réunions de militants. Au début, je trouve que c'est pas si facile que ça de prendre sa place. Moi, personnellement, je préfère d'abord beaucoup observer, voir comment ça se passe, quels sont les jeux un peu de pouvoir, de relations. Et puis après, on prend sa place progressivement. Et moi, je me rappelle que lors du premier mandat, je sais qu'on avait fait une formation qui m'avait été très, très utile sur la prise de parole en public. Et ça m'avait beaucoup aidé. Alors moi, parallèlement, je suis enseignante, donc j'ai aussi l'habitude de prendre la parole devant un groupe. Donc c'était déjà un atout et des compétences que j'avais engrangées. Mais ça m'avait quand même bien aidé. Le fait de... je me rappelle que la formatrice vous avait dit, mais n'hésitez pas à reprendre la parole, à redire des choses que certains ont déjà dit, parce que c'est aussi parfois en prenant la parole que vous existez, quoi, malgré tout. Parce qu'en ne la prenant pas, vous n'existez pas.
Et la première fois qu'on prend la parole devant le Conseil fédéral, donc il y a un pupitre devant un amphithéâtre où il y a à peu près 300 personnes assises et qui ne sont pas forcément toutes bienveillantes. Donc sur la première fois où j'étais vraiment conseillère fédérale et où j'avais le droit de prendre la parole, j'ai préparé mon truc. J'ai réfléchi, à chaque fois c'est un sujet, c'est sur une motion, quelque chose. Donc j'ai écouté, je me suis inscrite, donc j'ai adopté un peu le principe des hommes en fait, qui finalement demandent et s'inscrivent dans les prises de parole qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas quelque chose à dire. Donc j'ai attendu quelques minutes, puis je suis allée m'inscrire pour la prise de parole. J'ai écouté, donc du coup j'étais plutôt sur la fin des prises de parole, j'ai écouté tout ce qu'ils disaient, j'ai pris des notes et j'ai essayé de construire une intervention qui faisait un peu une synthèse de ce que j'avais entendu, qui s'étonnait du fait que tant de fois on ait répété la même chose, pour conclure parce que moi j'avais à dire et qui était différent de ce qui avait été dit.
Avril 2016, place de la République. Chaque soir, le même énoncé revient, à plusieurs reprises, prononcé par celles et ceux qui font nuit debout. Je n'ai pas l'habitude de prendre la parole en public, mais je voudrais dire, à Paris, à Athènes ou à Madrid, sur les places, dans une assemblée générale chauffée à blanc, une salle de réunion survoltée, des citoyens, des salariés, des militants de tous ordres se sont un jour emparés du micro, pour une tirade unique pour certains, ou au contraire pour d'autres, un baptême du feu qui a inauguré un apprentissage de l'éloquence. Prendre la parole, c'est affirmer, défendre, contester parfois, un système de représentation, de croyance, de valeur. C'est aussi faire l'expérience de s'autoriser à parler et quelquefois, naître par là à son pouvoir d'agir. Orateur d'un jour, militant, hommes et femmes politiques, élus et donc contraints de se soumettre tout au long de leur mandat à cet exercice, nous avons cherché à comprendre avec eux comment ces différentes scènes de l'engagement accouchent de sujets naissant à leurs propres paroles.
Alors, la prise de parole dans une assemblée publique, c'est quelque chose d'assez important quand on veut être élu et quand on veut bien incarner son mandat, en quelque sorte. C'est un moment de transition où on va passer, en quelque sorte, quand on apprend le métier d'élu, on va passer à travers la prise de parole, on va passer d'une étape où on est juste un élu qui traite des dossiers, qui est avec les services, à une étape où finalement on se politise en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on va prendre la parole et on va manifester une opinion. Par exemple, dans les conseils municipaux, c'est plus souvent une parole citoyenne ou société civile qui s'exprime, alors que dans les conseils régionaux, c'est ce que je montre dans mon article, il y a une parole qui est beaucoup plus politisée, davantage liée à l'appartenance à un groupe politique. Donc, ce moment de la prise de parole, c'est un moment charnière parce que c'est ce qui va permettre, en fait, ça va agir un peu comme un tremplin, c'est un moyen de se faire voir, de se faire repérer, aussi bien de la part des électeurs que de la part des autres élus. Et surtout, c'est un moyen de se faire reconnaître aussi en tant qu'élu à part entière. Donc là, prendre la parole, s'exprimer, ça va être un moyen vraiment de dire « j'existe, je suis présente, je suis élue et j'incarne mon mandat ».
Quelle est ma légitimité à m'adresser aux gens? C'est-à-dire de quelle place je parle? Et c'est pas nous qui pouvons, de notre simple décision à nous, le décider, ça. On ne peut pas exiger l'autorité, on fait autorité, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que il y a un travail, comme tu disais, d'être reconnu dans son rôle. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut se faire que parce qu'on fait nos preuves un petit peu. Et c'est en faisant nos preuves qu'on a ce rôle. Et on peut avoir parfois des gens qui n'arrivent jamais justement à franchir ce pas-là et qui ont toujours du mal à avoir cette reconnaissance un petit peu quand ils font une prise de parole. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué, du coup, je pense, pour les personnes dans ces situations-là. C'est quand même terrible, des fois, on le sent, quoi, quand il y a quelqu'un qui parle dans un conseil municipal, par exemple, et que vous voyez qu'il y a plein de gens qui commencent à discuter entre eux, ou qui, manifestement, sortent la tablette ou le truc, et puis ça peut faire mal pour eux, même, parce qu'on se dit... Ça doit être dur, quoi, de ne pas arriver à capter son auditoire et puis à intéresser à ce qu'on est en train de dire.
Arnaud Dupuis-Castérès, vous avez fondé la société de conseil en communication Vae Solis. Est-ce qu'on vient consulter un conseiller en communication de son plein gré ou est-ce qu'on vient habilement recommandé par un entourage qui a essayé de dire que peut-être il faudrait et à ce moment-là, comment vous gérez ces questions d'ego ?
Alors, tout existe. Et c'est un peu comme aller chez le médecin. Il y a des gens qui vont 3 fois par semaine chez le médecin parce qu'ils sont hypochondriaques. Il y a des gens qui vont quand ils ont mal. Il y a des gens quand on leur dit « tu n'as pas bonne mine et tu devrais vraiment aller chez le médecin ». Puis il y a des gens avec qui il faut vraiment très lourdement insister pour qu'ils y aillent. Et puis il y a des gens qui ne vont jamais chez le médecin. Donc on a toutes les catégories possibles. Et donc le dirigeant politique réagit de manière très différente. Donc vous avez des dirigeants politiques qui ont besoin d'un avis et d'un regard extérieur et qui vont picorer et parfois même qui ne vont jamais retenir vos préconisations mais qui se nourrissent de vos préconisations pour eux-mêmes se faire un propre avis et aboutir leur réflexion. Et auquel cas on est très utile. Alors on n'est pas suivi, mais on est quand même très utile, c'est déjà ça. Mais c'est plus challengeant pour un spin doctor d'avoir une personnalité qui se sert de vos apports et de vos contributions pour lui ensuite faire sa tambouille. Quand c'est sublimé, ce qui arrive très souvent en fait, c'est formidable parce que vous-même, si vous n'êtes pas dans cette position, c'est par choix ou par incapacité, mais vous n'auriez pas été forcément capable de mettre en œuvre votre recommandation et vous avez parfois comme ça des belles rencontres de gens que vous inspirez et qui traduisent ça dans un beau discours, une belle déclaration, une belle formule.
France Inter. Mais d'abord une vingtaine de députés dans l'hémicycle hier en fin d'après-midi à l'issue du débat sur la parité homme-femme. Les élus très majoritairement masculins avaient tiré leur révérence avant la fin. Les courses à faire sans doute. C'est dire en tout cas l'intérêt qu'ils portent à ce débat, même si la France est lanterne rouge européenne pour la place de la femme dans la vie publique. Le Premier ministre Alain Juppé s'en remet aux propositions des parlementaires. Il propose d'un point de vue personnel de réviser la Constitution pour pouvoir instituer des quotas de femmes dans les scrutins de liste. L'idée même de quotas est une insulte à ma dignité de femme, déclare l'UDF Christine Boutin. Pour la socialiste Frédérique Bredin, réserver des quotas aux femmes, c'est comme leur indiquer des petits boulots et des stages qualifiants. Quant à Christine Taubira Delannon, députée de La Réunion, elle rappelle aux hommes de l'Assemblée qu'ils devront, quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, se pousser un peu.
Nous vous prévenons que nous qui sommes parvenus à franchir le gué, nous qui sommes dans la place, nous sommes des chevaux de Troie.
Mars 1997.
Nous travaillons à préparer l'arrivée d'autres femmes. Nous le faisons notamment en intervenant de plus en plus dans les domaines que vous croyez virils, les activités économiques, les enjeux industriels, les grands débats internationaux. Nous y insufflerons une autre sensibilité. Et nous sommes d'autant plus redoutables que nous avançons à visage découvert. Nous affichons nos intentions et en plus nous comptons conserver nos privilèges. Par exemple, recevoir des fleurs, inspirer des poèmes et continuer à vous séduire. Vous voyez qu'à la sensualité de l'effraction, nous pouvons ajouter la volupté de la provocation. Mais nous continuerons à nous battre et nous gagnerons du terrain. Nous le gagnerons non contre vous, mais avec vous. Et parce que dans le fond, quand on gratte un peu, on sait que vous pensez, comme Frédéric Douglas au siècle dernier, que soutenir la lutte des femmes, finalement, c'est une question de conscience et de bon sens. Sans rancune.
À partir du moment où on acquiert une certaine légitimité,
on arrive à davantage faire basculer des décisions dans un sens ou dans un autre, je pense.
Très concrètement, on se rend compte qu'on a une audience. C'est comme du théâtre un petit peu. On se rend compte qu'on a une audience quand le public réagit. Et soit il réagit en manifestant un mécontentement parce qu'on défend quelque chose qui provoque des réactions d'animosité en face, soit au contraire on a des réactions aussi de validation de ce qu'on est en train de dire avec des gens qui manifestent ouvertement, qui sont en accord avec ce qu'on est en train de dire. Et là, quand on a ça dans un sens ou dans un autre, puisqu'en général, que ce soit positif ou négatif, on l'a cherché, quoi. Donc c'est gagné, quoi. C'est gagné. Le plus terrible, finalement, c'est quand on prêche dans le désert. C'est ça le plus terrible, je pense, pour quelqu'un qui prend la parole. Provoquer une réaction agressive quand on va chercher l'autre dans ses retranchements parce qu'on défend quelque chose et on est en train de dire « on n'est pas d'accord avec vous et ce truc-là, on se battra jusqu'au bout pour pas que ça passe », que l'autre en face manifeste son mécontentement, c'est pas déstabilisant, on l'a cherché quelque part.
C'est un feedback d'acteur, c'est un feedback de chanteur. Là, d'ailleurs, les politiques sont fascinés par les chanteurs ou les acteurs. Parce que c'est un jeu de miroir entre le politique et ces gens-là. Ils ont le même public, c'est le même. Et ils ont la même contrainte de scène et ils ont la même adrénaline sur scène. Donc il y a une fascination réciproque. Moi, je l'ai vu avec Jean-Pierre Raffarin, dans des salles de 2-3 000 personnes, parler de philosophie, si on peut parler de philosophie, avec des discours de fond assez intéressants et assez ardus, et avec une standing ovation à la fin du meeting. Donc c'était tout à fait surprenant. Mais pourquoi? Parce que la bête sur scène était une bête de scène. C'est-à-dire vraiment une capacité physique à attraper la salle, à la captiver, à la prendre, à l'amener là où il veut l'amener. Puis donc un politique, quand il est dans cette situation-là, il voit que s'il y a une résistance, c'est que son thème il marche pas bien, donc il vaut mieux lâcher et passer à autre chose. Que quand on est trop sérieux trop longtemps, à un moment donné, il faut faire une note d'humour. Quand on sent que la tension se perd, il faut raconter une anecdote personnelle. Enfin, il y a comme ça tout un tas de techniques que normalement un certain nombre de politiques devraient maîtriser. Ils sont assez peu nombreux à le faire, mais quand vous êtes dans une salle de meeting, ça fait toute la différence entre un grand orateur et un orateur lambda. Et alors, pour le coup, moi, je suis très sévère sur le charisme. Je pense qu'il y a vraiment très, très peu de gens en ont. Le charisme ne se voit pas sur scène quand vous avez l'homme politique ou la femme politique. Quand je dis l'homme, c'est avec un H majuscule, en action. Parce que là, justement, la technicité peut compenser l'absence de charisme. Charisme, c'est, vous le voyez quand le personnage politique rentre dans une salle. Voilà, tout simplement. Une pièce, même, j'allais dire. Et là, vous voyez tout de suite s'il y a un truc, il y a une décharge électrique dans la salle, si ça se fait ou pas. Le mec qui a le plus de charisme sur les 25 dernières années, je pense, c'est Barack Obama. Là, on a quand même du tribun de très, très, très haut niveau. Il faut voir le discours que Barack Obama fait pour l'enterrement de Nelson Mandela dans le stade de Johannesburg. Ses temps morts, ses attitudes, la manière qu'il a de finir une phrase, de tourner la tête, etc. Tout ça est quand même c'est du grand art.
Mandela taught us the power of action, but he also taught us the power of ideas. The importance of reason and arguments. The need to study not only those who you agree with, but also those who you don't agree with. He understood that ideas cannot be contained by prison walls or extinguished by a sniper's bullet. He turned his trial into an indictment of apartheid because of his eloquence and his passion, but also because of his training as an advocate. He used decades of prison to sharpen his arguments, but also to spread his thirst for knowledge to others in the movement. And he learned the language and the customs of his oppressors so that one day he might better convey to them how their own freedom depend upon his.
C'est vrai qu'en ce moment, on peut pas dire qu'on soit servi par des grands discours politiques. Mais c'est pas tout à fait vrai. Et ensuite, c'est conjoncturel. Donc ça veut pas dire que ça ne va pas revenir. Encore une fois, ce sont des outils du pouvoir qui sont absolument indispensables depuis que les sociétés se sont organisées en société. Donc ça a existé pendant 2500 ans. Personne ne me fera croire que c'est fini aujourd'hui. Donc on aura toujours besoin de discours.
Maintenant, est-ce qu'on a la classe politique qui est à la hauteur de ça? J'en suis pas totalement sûr. Mais il y a quand même une appétence pour les discours. Les dernières campagnes, puisqu'on parle de politique, les dernières campagnes présidentielles, a donné lieu à des discours qui, techniquement, étaient quand même des grands discours. Alors après, on peut ne pas être d'accord avec le fond. Il y a un personnage que moi, je n'aime pas du tout, que je trouve détestable à bien des égards, qui est Jean-Luc Mélenchon, mais de temps en temps, il a été capable de faire des discours qui, techniquement, étaient bien construits et étaient des bons discours. Je vais à l'autre, de l'autre côté de l'échiquier politique pour être un peu provocant. Nicolas Sarkozy a fait un discours le 1er mai 2012 de mémoire sur la place du Trocadéro qui est un très grand discours. Donc ça continuera d'exister. La fonction de la parole dans l'exercice de tous les pouvoirs est absolument essentielle. Moi, j'ai rencontré des politiques qui m'ont dit « oui, la communication, c'est annexe ». Communication, c'est annexe. Alors évidemment, je suis choqué parce que je suis un horrible communicant, mais pas du tout. Mais quand un politique me dit que c'est pas très important et que ce qui est important, c'est la politique et les idées, oui, je veux bien, mais enfin, on se souvient quand même de Vini Vidi Vici. Si ça, c'est pas de la communication, il faut qu'on m'explique ce que c'est. Et c'était César. Et donc, c'était le sens de la formule. C'était une belle punchline, pour utiliser une expression d'aujourd'hui. Et elle a fait 2000 ans dans l'histoire. Donc, celle-là, elle était quand même assez forte, vous voyez. Donc, c'est les grands dirigeants politiques qui ont laissé une trace dans l'histoire se sont distingués par un certain nombre de choses, pas que, mais dont les symboles et l'art oratoire.
Les jeunes gaullistes dans la rue. Dans 250 villes et villages de France, l'UJP a décidé d'organiser aujourd'hui une opération dialogue avec la population. À Paris, rue Mouffetard, on avait envoyé ce matin les têtes d'affiche, le président de l'UJP, Jean-Pierre Fassot, et plusieurs responsables du mouvement. Henri Pajot a écouté comment cela se passait ce matin dans ce quartier de Paris.
Venez dialoguer avec les jeunes gaullistes. La participation, qu'est-ce que c'est? L'indépendance nationale, qu'est-ce que c'est? Venez dialoguer avec les jeunes gaullistes.
Gauche ou droite?
Moi, j'étais gaulliste, c'est un peu, je suis le général de Gaulle, mais maintenant je m'en vais à gauche.
Et parce que peut-être vous ne connaissez pas encore assez le parti de gaulliste, les jeunes pour le progrès. Nous défendons vraiment les idées de Gaulle et nous restons gaullistes dans l'âme.
D'ailleurs, oui, peut-être. C'est en grande partie le cas également de l'UDR, de la base de l'UDR, qui est profondément pour la participation.
Le gouvernement ne voit que le capitalisme, ne suit que le capitalisme.
Non, je crois pas qu'il faut pas raisonner en termes de classe, comme ça, comme le font les marxistes. C'est vraiment dépassé de raisonner en termes de classe. Je crois qu'en effet, le gouvernement est à l'heure actuelle beaucoup plus modéré et moins révolutionnaire que De Gaulle, parce que De Gaulle, finalement, c'était un révolutionnaire. Et nous sommes... C'est pour ça que nous sommes d'accord avec lui, d'ailleurs, nous sommes des jeunes, nous sommes d'accord avec lui. C'est assez inhabituel pour des gaullistes d'être dans la rue, mais justement,
nous voulons
montrer que nous en sommes capables.
Je suis souvent dans la rue aussi.
On parle beaucoup de participation.
Dans mon quartier, on me dit que je suis une dame de rue.
On parle beaucoup de participation, mais aujourd'hui, on l'applique dans la rue. On
mais il faut, c'est très bien, très gens. Bien, très bien.
Venez dialoguer avec les jeunes gaullistes.
Je m'appelle Hervé Masniou. Et je suis adhérent donc depuis pratiquement le premier jour à Nouvelle Donne, donc depuis 2013. Nouvelle Donne, c'est un parti citoyen participatif, c'est-à-dire que il est composé de gens qui ont envie de développer, bien sûr, et de défendre une nouvelle approche de la politique, mais surtout de commissions thématiques qui sont composées donc de gens qui sont spécialisés et ou intéressés. Je pense que l'intéressé est aussi important parce que il faut pas s'enfermer non plus entre spécialistes. Je suis responsable du comité du 20e et à ce titre aussi, j'appartiens à ce qui s'appelle la coordination territoriale Île-de-France de Nouvelle-Donne. Et à l'intérieur de cette coordination, il y a plusieurs commissions de travail ou d'études, et l'une d'elles a été montée justement pour proposer cette formation. Alors ces formations ont été conçues d'abord pour aider les personnes qui de chez nous qui souhaitent se présenter aux élections législatives à prendre la parole, donc à oser affronter une salle, à oser affronter un débat contradictoire, à oser affronter vos confrères. Voilà, quand on n'en a pas l'habitude, ça peut faire peur et ça peut être quelque chose qui bloque un peu l'envie de se présenter. Donc c'est vrai que le fait de pouvoir facilement et aisément aller vers quelqu'un ou parler face à un auditoire fait partie de notre construction, c'est certain. Il faut que tout le monde, pratiquement le plus de gens, puisse être porte-parole du mouvement.
Je m'appelle François Macheret, j'ai 54 ans. C'est la première fois que j'adhère à un parti politique. Donc je suis un jeune militant Alors, j'ai suivi ces formations d'abord parce qu'en tant que militant, on est quand même appelé à parler, même sans avoir un auditoire de 100 ou 200 personnes. Quand on distribue des tracts sur un marché, les gens posent des questions, il faut pouvoir répondre. En tout cas, on a une parole sur la voie publique, au moins. Et donc, il faut pouvoir être ouvert à ça et trouver les mots justes, comme ça, de façon des fois inattendue. Voilà, donc écouter et puis prendre la parole au nom d'un collectif qui construit de la pensée politique. Donc c'est pas que ma parole. Moi, ce qui m'a intéressé beaucoup aussi dans cette formation, c'est de voir des gens qui n'ont pas l'habitude de cette prise de parole, même de la responsabilité politique, mais qui sont engagés, qui croient à quelque chose et qui donc tout d'un coup se découvrent, enfin on découvrait ensemble comment une parole est percutante ou pas, comment on est vrai ou pas, comment on est vivant et comment du coup l'écoute se fait parce que la personne elle est vraie quoi.
Nous ne pouvons pas accepter la division. Jusqu'à maintenant, nous avons décidé de la grève ensemble. Nous avons exposé nos revendications ensemble. Nous sommes allés discuter avec la direction ensemble. Et nous devons continuer notre lutte ensemble. S'il y a un vote, il devra être fait ensemble. Nous voulons absolument rester unis.
Yéma.
Montre Yéma chez votre horloger bijoutier.
Sport, beauté, jeunesse. Le Yéma style, c'est ça.
La vraie première prise de parole, c'est justement, tu vois, c'est là, parce que quand j'ai vu que ça discutait pas mieux que ça, que les gens se sentaient pas mieux concernés, je suis rentrée chez moi, j'ai essayé de faire un...
Suzanne Zédé, salariée de l'usine Yéma à Besançon, revient sur son expérience de la grève en 1968.
Une espèce de petit truc, et puis le lendemain matin, quand je suis arrivée au boulot, je l'ai montré à des militants de la CGT qui étaient là, qui distribuaient des tracts. Je leur ai montré ce que j'avais l'intention de dire et si c'était ça, quoi, si c'était bon. Là, ils m'ont dit que oui, je pouvais le faire. Alors, je suis montée sur le mur et j'ai parlé au gars de la boîte, quoi.
Yéma, une marque de personnalité.
Jean-Paul Quénesson, musicien de l'Orchestre National et délégué syndical central, élu au comité d'établissement Paris-Île-de-France et au comité central d'entreprise de Radio France.
Bon alors, entrons dans le vif du sujet. Enfin, vous savez que voilà, si je vous ai sollicité, vous en particulier, c'est que bon, il y a eu l'année dernière un grand mouvement de grève à Radio France qui a duré plusieurs semaines, plus de 5 semaines. Et donc, ce mouvement de grève a été scandé par un grand nombre d'assemblées générales. Moi, je vous ai vu intervenir donc dans le cadre de ces AG. Alors, monter sur le podium du chef pour prendre la parole, c'est tout un programme. C'est quelque chose que vous aviez préparé ou qui s'est fait de façon spontanée pour vous, ce jour-là ?
Là, c'était totalement spontané. Après, quand on est dans la logique d'assemblée générale ou de réunion avec des salariés, on sait que ça va arriver. Mais les modalités de l'intervention, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de schéma, il y a toujours une grosse spontanéité. Il n'y a jamais, pour dire de manière générale, il n'y a jamais de travail, il n'y a jamais de réflexion très aboutie. C'est toujours très très spontané. J'essaie et j'ai vu qu'à chaque fois que je préparais quelque chose, ça ne fonctionnait pas bien. Parce que cette part de sincérité, je crois que c'est celle-là qui fait qu'à un moment donné, on se sent très en contact avec les gens qui écoutent. Donc oui, c'est difficile, oui, on a le trac, oui, on a peur, tout ça.
On est venu ici pour parler des faits, au contraire.
Par moments, il y a eu des moments d'émotion très forts.
Si vous voulez qu'on sorte de ce conflit, il va falloir satisfaire aux revendications qui sont dans ce préavis de grève. Et ces revendications sont des revendications raisonnables, parce qu'elles visent à la pérennité de cette entreprise, pérennité qui doit vous être chère, parce qu'elle, pour nous, c'est notre vie, c'est notre âme.
Et c'est le service public. Merci.
Et à un moment donné, effectivement, mais tout ça, je crois que c'est parfaitement inconscient, c'est de se dire, je suis en dessous, je suis dans la harangue, mais je suis en dessous, soyons d'égal à égal. Et c'est pour ça que sans la moindre préméditation, c'est sauter sur l'estrade pour se retrouver à hauteur, pour pouvoir effectivement être d'égal à égal, mais il y a pas de calcul, c'est parfaitement spontané. Se retrouver en phase, un peu en communion avec les gens qui sont face à vous, c'est un peu comme une musique, c'est comme un flux et bon alors c'est très agréable, et puis c'est aussi se dire qu'on convainc, qu'on a des idées, qu'on les partage, qu'elles font consensus, et c'est extrêmement agréable. Et les limites qu'on se fixe, oui, c'est effectivement de ne pas aller dans la manipulation, mais je crois qu'il y a effectivement le poids des mots, leur sens profond, mais il y a aussi la question des gestes, la question des postures. Et c'est vrai que chez les chefs d'orchestre, il y a des chefs d'orchestre qui sont parfois très éloquents, qui vont beaucoup parler, mais qui feront probablement, et ça arrive souvent, passer moins de choses qu'un chef qui, grâce à un regard, grâce à un geste, va faire lui passer des choses profondes.
Bien, très bien. Super. Bravo. Bravo, bravo. Voilà en gros ce qui se passe. Super. Alors, première chose. Pour les flûtes, tu sais, les passages avec flat...
Didier Benetti, vous êtes percussionniste à l'Orchestre National de France. Vous êtes également chef d'orchestre et compositeur. D'abord, est-ce que vous vous souvenez la première fois où vous avez dirigé l'orchestre et comment s'est passé, parce que certains critiques ou musicologues appellent la prise de parole du chef. Est-ce que vous vous souvenez de cette première expérience ?
Dans le domaine de l'orchestre, on peut voir très vite si le courant passe ou pas. C'est assez... Bon, mais il passe surtout par la musique, évidemment.
Ouais, c'est bien que la... Sol, la, sol, sol, la, sol, 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 la, sol, sol. Voilà, c'est ça.
L'idéal, c'est moins on parle, voilà, mieux ça se passe. En musique, en fin de compte, tout passe par le geste, le regard. Et tout musicien d'orchestre préfère un chef qui ne parle pas, enfin, qui parle le strict minimum, puisqu'on se comprend. Mais en gros, c'est une grande leçon, de toute façon, moi-même, en tant que musicien d'orchestre, ça reste très fatigant, un chef qui parle beaucoup, parce que ça déconcentre, et on n'a pas besoin de parler, on a besoin d'un bras, d'un regard, et tout passe par là. Ça peut être un ennemi, le langage. On est vraiment, comme je disais, en ligne de mire, donc tous les yeux convergent vers nous, et on sent cette masse qui est là, qui est prête à être avec vous à 100%, à 200%, mais qui est prête à être contre vous à 200% aussi. Et ça se sent énormément. On sent qu'on a l'adhésion des gens, un regard, un petit sourire, et je sais pas, c'est de l'ordre du, oui, de, pas de, y a pas de l'irrationnel, mais c'est impalpable, c'est vraiment des ondes, des énergies qui circulent. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Mais bon, je pense qu'on le fait quand les gens sentent qu'ils ont en face de lui quelqu'un qui a envie de, qui se fait plaisir, qui est heureux d'être là, qui essaye de défendre la musique qu'il a au plus haut niveau, les gens adhèrent. Bon, mais ça, c'est vrai que des fois c'est pas facile parce que l'orchestre a tous les musiciens à un grand niveau, donc ils ont tous, en tant que professionnellement parlant, ils sont tous à un très haut niveau et ils attendent que la personne qui est en face d'eux soit quelque part supérieure ou au moins égale à leur niveau, parce que sinon on dit bah oui c'est bien gentil, mais le monsieur là en face, il sait pas de quoi il parle, enfin il gère pas la chose.
Thank you.
plus jeune, je pense que... Oui, des conseils d'administration face à des élus m'ont déstabilisé. Quand vous avez affaire à un élu, un maire, un président de région, ce sont des gens qui vous parlent de très haut et qui vous interpellent. Alors vous avez 27 ou 28 ans, on vous dit « vous l'État ». Qu'est-ce que vous en pensez? Mais vous êtes surtout arrivé avec une chose à dire, c'est que les subventions allaient baisser.
Je ne vous ai pas fait partir, je fais signe aux autres, je vous ferai partir, c'est bien. Ne vous inquiétez pas. Donc très bien, bravo, bravo.
Être hué sur des prises de parole, ça ne m'est jamais arrivé. Je m'arrange, enfin, je me suis même mis en défi que quand je prends une prise de parole à un endroit, globalement, l'objectif, c'est d'avoir une validation par des applaudissements. C'est mon objectif.
Hélène Debost, conseillère municipale du Mans.
Mais parce que enfin, c'est les instances concernées, alors pas le conseil municipal, ça n'arrive jamais, mais conseil municipal, l'équivalent d'un applaudissement, c'est faire en sorte que votre intervention soit la bonne durée pour que vous ayez l'attention d'absolument tout le monde pendant tout le temps de l'intervention. Donc ça demande de recueillir le regard des gens, de faire... Enfin, il y a tout... Enfin voilà, je me suis beaucoup exercée à tout ça. Enfin, j'y ai beaucoup réfléchi.
Manifestation de femmes, il y en a beaucoup en ce moment. Aujourd'hui, réunion des femmes d'un parti politique, le CDP. Réunion aussi à la Mutualité cet après-midi. Réunion de la Fédération du Parti communiste de la région parisienne, Françoise Daubonne. Une réunion de femmes. Georges Marchais sera là, mais en définitive, ce seront les femmes qui tiendront la tribune cet après-midi.
Je n'en suis pas du tout persuadée, car si j'en crois mon expérience, l'année dernière, la réunion « Les femmes ont la parole » a donné surtout la parole à Jacques Duclos, qui a parlé pendant une heure et demie, premièrement de sa carrière, ensuite du Parti communiste et pendant les 5 dernières minutes des femmes. J'ai donc l'impression que c'est ce qui va se passer aussi cet après-midi. Et comme mes camarades du mouvement de libération des femmes, je serai là pour voir si réellement la parole est aux femmes.
On sent les femmes moins installées à la tribune quand elles prennent la parole, elles sont moins à l'aise. Toujours dire un tout petit peu, je vais un tout petit peu faire, on va un tout petit peu faire. C'est ultra féminin. Moi, j'ai jamais entendu d'hommes dire un tout petit peu. Dans leur discours politique, ce sont les femmes qui disent un tout petit peu et en effet qui s'excusent par avance que peut-être elles ne sauraient pas, qu'elles pourraient ne pas tout connaître, ce que les hommes font quasiment jamais. C'était vendredi, ma rentrée de conseillère départementale. Au départ, je vous avouerai, j'avais dit « Oh non, je ne vais pas parler la première fois ». Et puis au bout de 2 heures de débat, il n'y avait pas eu une seule prise de parole de femme. Je me dis « Bon, pour la première fois, enfin, tu peux pas non plus ne rien dire du tout. Donc, c'est trouver qu'est-ce qu'il est intelligent de dire, qu'est-ce qui va pas être redondant avec le reste. Donc, je m'étais dit que j'allais attendre l'après-midi et pas forcément parler, surtout pas parler pour parler. Mais au bout de presque 2 heures à n'avoir eu que des interventions masculines et vraiment sur ce schéma de plusieurs interventions qui redisent les mêmes choses, mais en les reformulant différemment, chacun dans son camp, sur des oppositions en plus très politiciennes finalement et avec pas beaucoup de fond. Et du coup, j'ai cherché, enfin voilà, j'ai essayé, j'ai appliqué la même méthode, j'ai noté ce qui m'avait choqué dans les propos des uns et des autres et ce qui n'avait pas été dit. Et je suis intervenue plutôt sur la fin des interventions du matin et en essayant de synthétiser ce qui m'avait frappé dans ce que j'avais entendu et en proposant autre chose. Et ça passe plutôt bien, en fait. C'est une bonne technique, je pense, pour les femmes.
Bien, Hélène Debost. Je vais essayer de répondre aux différentes choses qui m'ont un peu frappée dans les interventions. Donc, je me joins aux propos de mes collègues par rapport à l'intervention de M. Noguès. C'est toujours étonnant, vos interventions et vos hérésies sur le financement associatif. Le monde associatif, il contribue à la richesse d'une ville, il contribue aux services, aux habitants, dans tous les domaines, que ce soit la santé, la culture, l'enfance, la jeunesse et même la sécurité, M. Noguès. Et vouloir de manière aveugle baisser de 10% les subventions à l'ensemble des associations, c'est plus qu'irresponsable. C'est d'une part beaucoup d'emplois qui disparaissent, parce que le monde associatif, c'est le monde de l'économie sociale et solidaire. Le monde de l'économie sociale et solidaire, ça représente un taux très important d'emploi dans ce pays. Et d'autre part, quand en effet l'opposition s'insurge et réclame en permanence de baisser la masse des emplois publics et des fonctionnaires municipaux, on a dans notre pays le problème le plus grave et celui qui est le plus remonté par tous nos concitoyens, c'est le chômage. Et je ne peux que m'étonner que les interventions de l'opposition soient systématiquement pour dire « Mais mettez donc des gens au chômage, arrêtez d'employer des gens, Débarrassez-vous de tous ces gens qui nous emmènent. Ces gens remplissent des emplois, ces gens remplissent des missions, et des missions qui sont utiles à la ville et qui sont utiles à nos concitoyens.
Oui, Madame de Bost, chers collègues, je crois que vous avez une conception de l'économie qui est assez archaïque. Je l'ai déjà remarqué en commission. Pour vous, il y a les gens riches qu'il faut taxer et il y a les gens pauvres à qui il faut redistribuer, comme vous dites si bien. Concernant le chômage, je vous fais remarquer qu'il y a eu des pays que vous aimez sans doute, comme l'Union soviétique, où il n'y avait pas de chômage.
Pas de chômage. C'est pas de chômage. Elle n'a pas connu. Elle n'a pas connu.
Les îles, on passe au vote après.
Pas de chômage.
Mais pour répondre à Mme Debosse qui me dit que les subventions ont baissé. Les subventions associatives ont baissé. Moi, je demande qu'à la croire. Mais je lis votre document.
Il y a plusieurs choses qui sont assez flagrantes au Conseil fédéral. C'est la proportion de prise de parole d'hommes par rapport aux prises de parole de femmes. Le temps des prises de parole d'hommes par rapport au temps des prises de parole de femmes. Et j'avais remarqué qu'en effet, les hommes se manifestent très facilement pour prendre la parole, même pour redire quelque chose qui a déjà été dit 15 fois. Alors que les femmes, et j'en avais discuté avec différentes conseillères, n'ont pas la même attitude. Elles ont besoin de parler d'un sujet qu'elles connaissent bien. Donc elles sollicitent moins souvent de prendre la parole. Et quand elles le font, elles s'excusent tout le temps. Elles préviennent tout le temps qu'elles ne vont pas être longues. Cette appréhension, on l'a toutes. Et elle est pas, c'est pas par hasard qu'on a cette appréhension. Parce que quand on est devant une salle... Et les regards que pose l'Assemblée sur la prise de parole d'une femme ne sont pas du tout les mêmes que sur la prise de parole d'un homme. Dans n'importe quelle Assemblée, vous sentez bien quand vous parlez qu'il y a quelqu'un... C'est comme si on vous dit « Mais dépêche-toi, mais c'est long. » Alors je ne sais pas, est-ce que c'est notre voix qui les agace? Est-ce que...
Le compte. C'est le compte de gestion, généralement. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour?
Maud Navarre, je suis sociologue. J'ai réalisé une thèse sur les femmes en politique, en particulier sur la région Bourgogne. Très jeune, dès l'enfance, finalement, on n'apprend pas aux petites filles à faire le show en public. Ça se voit très bien au niveau des travaux sur les socialisations féminines et des petits garçons et des petites filles. La petite fille, on va plutôt l'inciter à être discrète, à pas faire trop de perturbations, à pas gêner ses parents quand ils reçoivent des amis, etc. Alors que le petit garçon, s'il arrive et qui d'un seul coup il se met à courir au milieu du salon, etc., en faisant le show, ça dérange pas, ou moins du moins. Donc il y a une forme de tolérance qui est plus forte à l'égard des gesticulations des petits garçons, des cris, etc. Donc, c'est sûr que déjà, ça crée un déséquilibre à la base, une fois que les femmes sont élues, si elles n'ont pas été habituées, par ailleurs, à s'exprimer en public, devant une assemblée, à animer une réunion, par exemple, dans le cadre professionnel, face à un grand public, etc., ça peut créer des écarts.
Est-ce que vous avez pu observer, d'ailleurs, vous-même, dans toutes les observations que vous avez menées pour ce travail, de situations de chahut ou de mise en difficulté qui avaient un caractère ouvertement sexiste?
Alors, le sexisme, dans les séances plénières, dans les assemblées ouvertes au public, il y en a relativement peu parce que c'est face aux électeurs potentiels. Donc il y a quand même depuis les années 90, depuis le contexte de la parité, il y a quand même une forme de consensus implicite sur le fait que les femmes sont aptes à faire de la politique comme les hommes et qu'il faut surtout pas dire qu'une femme c'est moins capable qu'un homme. Donc ça se dit plus en public. Ça veut pas dire que ça ne se dit pas par ailleurs. On voit que ce type de propos sexistes, c'est pas toléré, c'est beaucoup moins bien toléré. On peut faire le lien aussi avec, je pense par exemple à l'Assemblée nationale, avec les sifflements de Cécile Duflot par exemple, ou les caquettements qui ont lieu à l'égard de certaines femmes. Tout ça, c'est repris et c'est condamné.
Madame Massonneau, sur le 3015.
Merci Monsieur le Président. J'ai bien entendu, Madame la Ministre, que l'accroissement de l'espérance de vie est une chance pour la France. Je ne le nie pas, mais il est nécessaire de voir au-delà de ce critère l'espérance de vie, en bonne santé notamment. Oh, ça suffit, là. Mais qui c'est qui s'est fait
Écoutez,
ça enfin,
franchement,
arrêtez, quoi. Je suis pas une poule, hein. C'est bon.
Il y a des comportements
incroyables. La durée
moyenne
de cotisation est de 35 ans pour les femmes et 37 ans pour les hommes. L'étude d'impact n'a pas mesuré les conséquences de cet allongement sur le chômage des seniors. ni celui des jeunes. Les projections retenues pour la mise en place de ce dispositif me semblent en outre quelque peu optimistes. Pour toutes ces raisons, les écologistes sont défavorables à cette mesure et nous demandons sa suppression. Merci.
Merci. Mes chers collègues, avant de poursuivre les travaux, moi je veux bien que les uns et les autres aient des idées à défendre. Mais que l'on se transforme en cours de récréation, non. Donc je vous le dis, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Hein. Donc je vous propose une minute de suspension pour que chacun puisse retrouver son calme. Mais ce n'est pas possible, on ne poursuivra pas les travaux comme ça. Hein. La séance est suspendue.
Ce sentiment d'incompétence, il existe chez les femmes, il est intériorisé chez les femmes, et il est intériorisé parce que l'environnement autour, les autres élus, renvoient les femmes plus souvent que les hommes à des formes d'incompétence, au fait qu'elles seraient moins compétentes que les hommes. Il y a ce soupçon, c'est ce que j'appelle le soupçon d'incompétence. Hein. Donc ça, c'est entretenu par des petites remarques, par le fait que quand elles demandent la parole, par exemple, on ne leur donne pas tout de suite. Lorsqu'une femme commet une erreur, a la langue qui fourche, bafouille, si elle se trompe, tout de suite, c'est noté, c'est remarqué. Ah là, vous avez donné un chiffre, c'est pas le bon chiffre, c'était pas ça. Vous connaissez pas votre dossier, donc. Alors que quand c'est un homme qui se trompe, surtout si c'est un ténor politique, un leader de groupe, etc., il y a une forme de consensus, on va quand même laisser dire, on relève pas l'erreur. C'est pas relevé, c'est pas noté.
Est-ce que vous pensez, Maud Navarre, que peut-être, du côté des dispositifs, il y aurait des choses à faire évoluer ou à faire avancer pour améliorer la prise de parole des femmes, notamment si on en reste sur cet objet?
Oui, bien sûr, parmi les dispositifs essentiels, c'est tout ce qui va favoriser une parole organisée, une prise de parole organisée. Donc les listes sur lesquelles s'inscrire pour prendre la parole, tout ça, ça participe, ça favorise justement les interventions des personnes qui sont peut-être moins sûres d'elles, moins à l'aise pour s'exprimer, donc ça, et qui sont surtout moins bien identifiées comme étant des personnes qui peuvent potentiellement parler.
Bonjour, je m'appelle Julie, je ne parlerai que en mon nom aujourd'hui. Moi, je suis crieur public, c'est-à-dire que mon rôle dans l'organisation de l'AG, c'est de me balader dans la foule des participants qui sont donc derrière et de recueillir les paroles de ceux qui ne voudraient ou n'oseraient pas s'exprimer au micro, et d'ainsi essayer de faire parler le plus de monde possible. Si on est ensemble ici, c'est avant tout pour libérer la parole et libérer les consciences et politiser les gens et faire en sorte que ce soit possible de penser des manières alternatives de s'organiser, de se gérer et du coup en fait tout simplement de faire de la politique, à savoir de vivre et d'habiter ensemble et de gérer.
À ACT UP, on a des facilitateurs et on doit être à peu près la seule association en France à avoir un facilitateur.
Philippe Mangeot, président d'ACT UP de 1997 à 1999.
Après, c'est des technologies très simples. Ce qui est très mystérieux, en gros, c'est que c'est qu'elles ne se soient pas imposées d'elles-mêmes dans le champ politique français ou dans le champ associatif français, où la tradition est plutôt la tradition du tunnel de parole, quoi. Pour les décrire très vite, le facilitateur a la possibilité de dire que quelque chose a déjà été dit et de vous couper la parole, c'est le seul qui soit en mesure de le faire. Deux, le facilitateur peut vous signaler que c'est trop long. Et trop long, ça veut dire que ça excède 3 ou 4 minutes, c'est-à-dire que ça va très très vite. L'échange va très vite, ce qui permet d'éviter effectivement le tunnel du discours, ce qui permet d'éviter la tentation de l'éloquence, ce qui ne veut pas dire qu'on échappe à la question de l'éloquence, puisque dès lors qu'on est une arène, la question de l'éloquence se pose, mais ce qui veut dire que c'est presque un art de l'épigramme, de la rapidité, comme ça. Donc il y a quelque chose de très important de ce point de vue-là. Par ailleurs, et moi c'était plutôt ce que je préférais, on avait des gestes comme ça. Alors évidemment, il y avait un geste qui consistait à faire un T avec ses deux mains, et qui signalait que c'était trop long. Le facilitateur pouvait faire des T pour signaler qu'on était trop long, mais par ailleurs, nous-mêmes, on pouvait signaler au facilitateur que ce serait bien qu'il fasse un T en faisant nous-mêmes un T pour signaler que l'autre était trop long. Il y a une espèce de virtuosité de la parole qui fait que tout allait très vite à ACT UP, et tout était de ce point de vue... Alors, il ne s'agit pas d'esthétiser une technologie, mais sans doute homologue au sens... à la façon dont l'urgence était communément vécue dans la vie de l'association. Après, il y avait encore autre chose qui était la question de l'assentiment. Et là, c'était pas exactement comme à Nuit Debout, où à Nuit Debout, quand on est content, on agite les mains en l'air. Nous, on claquait des doigts, comme ça, on faisait comme ça. Donc, ce qui permettait, en fait, de ne pas interrompre celui qui parlait. Et il est apparu que nos technologies étaient à même de faire parler tout ce monde. C'est-à-dire qu'on n'était plus à la Bourse du Travail, quoi. Il n'y avait plus ces espèces d'orateurs, comme ça, qui arrivent, qui s'écoutent pas, qui disent leurs trucs, qui attendent les applaudissements, etc. Donc il y avait une efficacité, mais aussi une virtuosité, une sorte de plaisir comme ça, de dramaturgie de la parole, qui était très forte à ACT UP, et sans doute, pour une part fondatrice, je crois qu'elle n'est pas sans rapport, en effet, avec ce qu'on a vu à Nuit Debout.
Moi, j'ai 55 ans, je suis au chômage, 55 ans quand on a élevé ses gosses, on bosse depuis qu'on a 16 ans, de se retrouver à moins de 800 euros par mois et à quelques semaines du RSA. C'est pas l'avenir, c'est pas une vie que je veux faire.
Cette parole qui devient publique, sur la place, elle a peut-être été trop emprisonnée, trop confisquée par des spécialistes de la parole publique. Et Nuit Debout, ça raconte peut-être ça aussi, que la parole, peut-être elle a été bradée trop, qu'elle n'a plus la valeur intrinsèque qu'elle doit avoir. Être quelqu'un de parole, ça veut dire quelque chose, ça veut dire pas des promesses en l'air, ça veut dire tenir parole, ça veut dire... On va au bout de quelque chose.
Je tiens à dire que moi-même je suis patron et qu'il n'y a rien à dire contre les patrons, c'est pas les patrons, tout le monde est dans la même merde.
Et je crois que c'était une façon aussi pour les gens de se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls à penser certaines choses. Et voilà, il faut que ça se dise, il faut que ça circule. Là, je crois que c'était vraiment très très important pour... On retrouvait d'une certaine façon la modernité de l'agora grecque, hein, même s'il y a des excès, là, on est d'accord, mais malgré tout, on voit bien que ça correspond toujours à un besoin humain. On a besoin de parler, on a besoin d'échanger. C'est comme ça qu'on avance. Encore une fois, sinon, on est dans la confiscation de la parole.
Une vraie volonté de prise de pouvoir citoyen et que chacun puisse s'exprimer avec ce qu'il est, avec ses idées et avec son ras-le-bol.
Rénover les valeurs.
Soyez aimables, qu'on se reparle, qu'on se regarde tous ensemble. C'est pas qu'un mouvement de jeunes, c'est pas qu'un mouvement de vieux ou de vieilles, c'est un mouvement d'hommes, de femmes, de citoyens.
Et puis c'est de l'écoute aussi, la parole. Si j'ai 5 minutes, ça veut dire que je suis écouté pendant 5 minutes. Même si c'est que 5 minutes, mais c'est la preuve, c'est que la parole, elle circulait, donc les gens ont envie d'être écoutés. Les gens ont besoin d'être écoutés, donc la parole, elle doit être liée à l'écoute.
We are children of the revolution. Una, dos, tres, décima.
C'était Oser prendre la parole. À la tribune, je monterai. Par Céline Leclerc. Réalisation Anna Smuk. Avec Isabelle Sévère, Rémi Battiot, Hélène Debost, Arnaud Dupuis-Castérès, Didier Benetti et Jean-Paul Kenson, Hervé Masnew et François Macheret, Maud Navarre et Philippe Mangeau. Merci à Alexandra Poulain, à Mathilde Barbier et à Laurent Campellone. Suzanne Zédé confiait son expérience de la grève à Besançon en 1968 au cinéaste des groupes Medvedkin dans le film Classe de lutte en 1969. Lecture de la pièce Arrête, je vois la parole qui circule dans tes yeux par Capucine Baroni et Théa Marcadet dans une mise en scène de Claire Lapère-Mazera. Les répétitions d'orchestre étaient une archive d'Arturo Toscanini avec l'orchestre de la NBC en 1943 et sous la direction de Didier Benetti, la pièce 20 000 lieues sous les mers avec l'Orchestre National de France en juillet 2016. Prise de son, Gaël Braouezek, Laurent César et Yann Frécy. Mixage, Delphine Baudet. La série documentaire, coordination Perrine Kervran. Attachée de production, Marie-Vonne Abolivier.
LSD, la série documentaire, c'est déjà presque une habitude, mais pour aujourd'hui, c'est fini. C'est une prise de parole de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier. Et si vous voulez voter pour nous, bibliographie, lien, podcast ou nous réécouter dans l'isoloir, c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook et sur Twitter. Et demain, troisième étape, parler est-ce toujours une bonne chose ? victime, je libérerai ma parole.